Il y a personne là.
Réunion chez Cléa de Paris, 15 avril, 16. Aujourd'hui, ouais.
16 avril.
16 avril 2010.
Bien, nous y allons. De ce qui a été vu précédemment, est-ce que vous avez des précisions à obtenir sur les quatre premiers rayons? Alors, retenons quand même que l'être humain, selon ces trois aspects, monade, âme, personnalité, est sur l'un ou l'autre des rayons. Étant entendu toutefois que pour ce qui concerne la racine de vie, lorsque l'être rentre dans le cinquième règne, il est sur un des trois rayons d'aspect. Mais chacun de nos corps est positionné sur telle ou telle influence. Notre racine de vie qui conduit la traversée du règne humain, eh bien évidemment, place ces différents corps de manifestation sous telle ou telle influence de rayon, et ce pour obtenir symboliquement un diamant parfaitement ciselé. Et au cours de la traversée, bien évidemment, selon les cycles, il y a changement d'influence. Le cinquième rayon. On a vu les vices, en les reprenant, ça ne fait jamais de mal, surtout que c'est un rayon habituel de l'être humain, puisque c'est le rayon du mental inférieur, c'est-à-dire lunaire, notre mental humain classique, concret. Critique dure. Au-dessus du mot critique dure, vous pouvez mettre poison. Au-dessus du mot poison, vous pouvez mettre acide. Parce que telle est la réalité destructrice de la critique. N'oublions pas que ce que nous pensons, nous le projetons, et qu'au-delà du visible, il y a l'invisible, et par conséquent, la critique que nous formulons sur autrui, télépathiquement, lui est projetée. Et comme le pollueur est le premier pollué, la boucle est bouclée. Critique n'est pas à confondre avec analyse. Quelqu'un qui nous est proche montre une faiblesse. Il est tout à fait sain avec quelqu'un d'autre ou plusieurs d'avoir une analyse impassible de son problème, de sa difficulté. Si c'est fait avec bienveillance, Eh bien, cette analyse qui, si elle a été bien menée et a été formulée clairement, c'est autant de lumière d'aide qui va l'entourer. Vous voyez bien la nuance. Hein. L'analyse, c'est la bienveillance pour aider l'autre à devenir meilleur. La critique, c'est bien souvent voir chez autrui ce qu'on ne voit pas chez soi.
La paille et la poutre, on connaît. Mais...
La paille et la poutre, c'est pas pareil. C'est-à-dire que tu vas te préoccuper d'un petit détail qui te dérange chez l'autre. Hein, et si tu regardais ton jardin, tu dirais, ouais, ben moi, c'est pas des détails que j'ai, hein, c'est des gros blocs de granit. Hein. Mais non, c'est le fait que on peut aider l'autre. Comprenons ceci. Lorsque le sage peut aider l'autre et peut le faire directement, il va, d'une manière ne générant pas de réactivité, parce que tout l'art de la sagesse, c'est de ne pas faire générer de réactions négatives chez autrui, hein, c'est beaucoup plus difficile encore que sur soi-même, eh bien, avec l'habileté de lui faire apparaître le comportement qui n'est pas à l'équilibre, pardon, le fait que l'autre est en résistance telle qu'il n'y a plus que le silence, hein, le sage n'est plus qu'à se tenir au silence, mais c'est un silence actif, c'est-à-dire par la pensée projetée. L'art difficile de la sagesse, c'est de ne pas faire générer de négatif par autrui.
De toute façon, c'est lié au jugement, d'une manière ou d'une autre.
Et quand on sait que le dernier point de réaction, la place est là, toute froide. Quand on sait que la dernière réactivité pour la sagesse, c'est l'irritabilité, on voit bien que dans le rapport avec l'autre, le terrain d'irritabilité est, je dirais, extrêmement fragile. Hein, donc c'est un art qui n'est pas facile. Et en ce domaine, si vous voulez, c'est l'humour et la taquinerie qui peuvent aider à la chose. Mais avec gentillesse, quoi. Un exemple, mais qui ne serait pas, bien sûr, présent, hein, mais ce serait par exemple de formuler « ça ne te dérange pas d'écrire pendant que je parle ». Tu vois ? Non, tu me réponds et ça ne te dérange pas de parler pendant que j'écris.
Ah ouais, super, ça fait longtemps.
Non, arrête de parler, tu m'évites de respirer, c'est ça.
Bon, alors, parmi les caractéristiques du rayon dans son aspect lunaire, nous avons l'étroitesse d'esprit. Ça implique un manque de vision. Et on va dire que cette étroitesse d'esprit, par définition, est un aspect de la bêtise comme l'orgueil l'est également. Et c'est là où il faut faire attention dans le rapport, parce que bah, l'être, il est à ce stade de réalisation, de progression, et par conséquent, bah, il faut l'aider à avoir un horizon plus large. Ce qu'il faut bien comprendre, le mental inférieur, le mental concret, et le mental composite de nos vies mineures. Je crois qu'il faut que je reprenne à la source. L'être que nous sommes, comme toute vie en évolution, a pris en charge dans son contrat de vie des myriades de vies plus jeunes. Vous intégrez bien ça, hein ?
Oui.
Si vous l'intégrez, comme on dit, là vous avez franchi un cap capital. Nous avons en charge des vies mineures. Ces vies mineures, dans leur totalité, constituent notre mental inférieur lunaire. Là, nous avons un deuxième aspect de ce point capital. Ce n'est pas notre mental. Alors que, bien évidemment, nous en sommes persuadés du contraire.
Ce n'est pas notre mental en tant qu'être humain, mais c'est quand même toutes nos composantes. Historiquement, nous en avons. C'était quand même tout ce qui a constitué notre vie.
Oui, mais ça relève de l'instinct. Comprenons le processus. Comprenons le processus. C'est lunaire. Devant tel ou tel fait de la vie, relation, vont nous faire monter une lecture instinctive, habituelle de nos comportements. Donc devant une situation donnée, il y a l'instinct habituel qui monte au créneau. Et c'est en cela que nous avons 12 secondes pour analyser est-ce que c'est lunaire ou est-ce que c'est solaire. Est-ce que c'est dans le cadre de justes relations ou est-ce que c'est dans la séparativité.
C'est correspond au non-soi en fait.
Oui, bah oui, mais ton non-soi, c'était lunaire. Mais c'est ton club. Simplement, dans la traversée du quatrième règne, eh bien, c'est l'édification des corps, c'est-à-dire des globes de manifestation qui sont les tiens, c'est ton non-soi, et ce non-soi, eh bien, tu sélectionnes, entre guillemets, parce que c'est plus qu'il s'impose à toi, hein, puisque c'est le monde du désir, et que par conséquent, ils deviennent, comme on dit, réactifs, instinctifs à la situation donnée. Or, l'être que nous sommes, dans notre réalité, nous sommes un être de lumière initié aux réalités, mais nous avons à le traduire dans les mondes où nous nous manifestons. Donc, notre présence terrestre, eh bien, il y a ce corps physique qui sont des vies mineures avec un occupant à bord qui est ou maître de la situation ou prisonnier. Quand il est prisonnier, c'est l'animal, puisque notre corps physique dense relève du règne animal. Alors, ce cinquième rayon, ben, il a une importance fondamentale, parce qu'en fait, c'est lui qui doit amener l'être à obtenir une nouvelle dimension qui le mènera, qui nous emmènera au mental universel. Si nous regardons les plans de conscience, le cinquième, nous l'avons ici, sur le plan mental, mais si nous comptons de bas en haut, nous arrivons au mental universel qui, lui, est le plan atmique. Et qui concerne le mental de l'homme céleste. Ce qui veut dire que par concordance numérique, le 5 est double, et notamment lié à la cinquième hiérarchie créatrice, la hiérarchie de Manas, qui elle est double, au sens où elle donne à la fois le mental inférieur, le mental supérieur et le mental universel.
C'est triple alors.
Oui. C'est double. C'est double. Parce que le mental supérieur est lié directement au mental universel.
Ah oui, d'accord.
On ne peut plus le séparer à ce stade-là. La chose qu'il faut bien saisir dans cette ligne de rayon, c'est qu'il y a le risque de séparativité. Puisque c'est le rayon qui permet d'analyser, de distinguer, de définir, et par conséquent, il y a ce risque, et ce risque, notre humanité est tombée dedans. Alors, s'il y a de l'arrogance, eh bien là, comme on dit, nous retombons à nouveau vers un aspect de la bêtise, et plus particulièrement lié à l'orgueil.
Arrogance, orgueil, c'est pas ça, ça me pareil.
C'est des variantes.
Mm-hmm. Hein. Je vais bien mettre.
Et puis, de toute façon, tu vas donner dans le même registre. Mm-hmm. Hein. Caractère ne sachant pas pardonner. Ça veut dire ne sachant pas tendre l'autre joue. On va faire quand même une parenthèse sur le pardon, n'est-ce pas ?
Pardon.
Quand il y a agression, il y a énergétiquement une flèche qui est tirée sur autrui. C'est littéralement comme si vous lui envoyiez une flèche énergétique. Cette flèche énergétique ne peut être décrochée que par le processus inverse, c'est-à-dire le pardon. Nous touchons là quelque chose d'éminemment important, à savoir que le pardon est un processus libérateur et possède en lui la puissance de l'amour. Tant que vous n'aurez pas pardonné à autrui, vous gardez le germe de la flèche négative. Quand on vous agresse, le négatif vous percute et il va laisser sa pointe de flèche sous forme de germe du négatif qui peut ressurgir deux, trois vies plus tard.
Ah oui, carrément. Deux, trois vies plus tard.
Ah oui, oui. Ouais. Ouais. Vous voulez un exemple simple? Ben, c'est que deux ennemis il y a deux, trois vies vont se retrouver dans un contexte proche, soit de famille, soit en relation dans le monde, pour résoudre. Et puis curieusement, quand vous l'avez, ben, comme on dit, ça... Regardez dans les familles comment des frères, des sœurs s'accrochent. Voilà. Et c'est parce qu'ils n'ont pas su se pardonner. Alors, pour aller jusqu'au bout du pardon, il y a un, il faut pardonner, et deux, il faut se pardonner. Je prends un exemple dur. Une jeune femme a été agressée, violentée. L'exercice qu'elle a à mener, c'est un, c'est un ennemi libérateur de ma propre faute du passé antérieur. Donc, elle a à pardonner. Deuxièmement, elle a à se pardonner. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Parce que dans son cheminement de conscience, elle doit arriver à saisir qu'elle, qui est aujourd'hui toute bien, comme il faut et autres, eh bien, elle a pu faire ça dans une vie passée. Mais je peux vous dire qu'il y a des cas où ça se passe très bien, et il y a des cas où... la personne concernée refuse la notion de renaissance et de karma par orgueil.
Par peur.
Non, non, par orgueil. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Elle ne sait pas s'agenouiller symboliquement. Dans la traversée du règne humain, nous avons quasiment tous tout fait, selon notre âge d'évolution. Et qu'à partir de là, la justice, elle fonctionne de la façon suivante. Cette faiblesse du passé, nous l'avons en épreuve de vie pour comprendre la justesse de ce qu'il y a lieu de faire, d'une part, et puis qu'on récolte ce qu'on a semé. À partir de là, quand l'épreuve montre maîtrise, c'est effacé.
Mais l'un n'applique-t-il pas l'autre? Dans la mesure où l'on pardonne à l'être qui t'a assailli, est-ce que ce n'est pas un pardon pour soi-même, dans la mesure où tu reconnais qu'il s'agit effectivement d'un élément de justice? Et que
tu peux faire l'un et tu ne feras pas l'autre. La chose qu'il faut saisir, c'est que ça ne vient pas par hasard. Ça veut dire que notre être intérieur, Abel, a prévu ça pour Cain. Donc ça veut dire que Cain s'aventure sur un terrain ardent. On se comprend bien. Si vous n'avez pas la faiblesse à corriger, on va dire que vous tenez à peu près l'équilibre des choses. Donc, mais où est le problème? Regarde. Le comportement dans la vie vis-à-vis des autres, c'est que vous avez plein de gens qui sont comme on dit, tranquilles dans ce domaine-là et qui ne comprennent pas pourquoi l'autre a ce genre de problème. Hein, je veux dire par là, si tu veux, que quelqu'un qui a une tendance à l'alcool, bah, quelqu'un qui n'a pas cette tendance, il ne comprend pas pourquoi l'autre... Et c'est une faiblesse chez l'autre. Est-ce que tu vois bien ? Donc, terrain ardent, difficile, zone de faiblesse. Bon, eh bien, à partir de là, dans certains cas... la personne aura beaucoup de mal dans des cas, comme on dit, où elle ne supporte pas, à la limite parce qu'elle le porte en elle, et bien elle aura du mal à se pardonner.
Mais alors, est-ce que c'est en conscience, ça ? Est-ce que quelqu'un en conscience peut vouloir se pardonner et en fait pas y arriver ? Ou est-ce que si on ne se pardonne pas, c'est qu'on est conscient que finalement on ne veut pas se changer ?
C'est plus, je pense que c'est plus subtil que ça et c'est au cas particulier. Oui. Mais je pense que nous sommes en terrain de faiblesse. Donc ça veut dire que la personne, elle n'a pas la hauteur de clarté adéquate. Elle est dedans. Alors, elle va avoir en elle cette réflexion de dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça ?» Puis elle arrivera peut-être à dire « Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il m'arrive ça ?» Bon. À partir de là, elle va avoir une double porte à franchir, c'est-à-dire un, je pardonne à mon ennemi. Et deux, c'est peut-être un retour. Or, l'être intérieur sollicite les prises de conscience. Parce que notre être ne met pas au champ des preuves quelque chose que nous sommes, n'est pas à même d'assumer. C'est ça qu'il faut saisir. Caïn est un sage. Abel est un sage, pardon. Et par conséquent, il n'est notre agent karmique. Et par conséquent, il ne mettra l'épreuve que si son frère jumeau d'en bas est à même de trouver, comme on dit, le pourquoi de la chose.
Allez. C'est pas une question, c'est simplement dire ce que je fais. Moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire, j'interpelle plutôt la personne pour se pardonner à elle-même. Enfin, moi, j'ai vu que dans les processus que j'ai vécu, c'est en commençant à me pardonner à moi-même que j'ai pu après pardonner à l'autre. Et donc, c'est bien dans l'accueil que je fais de la personne, l'accueil inconditionnel, dans la prise de conscience pour l'aider à se pardonner à elle-même. Et après, le chemin peut se faire pour pardonner à l'autre. Voilà.
Nous sommes dans des situations éminemment intimes pour l'être. Et par conséquent, celui qui accompagne va, s'il sait bien le faire, travailler avec son être. Ça va être un rapport d'être à être. Et par conséquent, nous sommes là, en fait, sous impression intuitive de son être. Donc à partir de là, comme on dit, ça se fera de source. Mais on ne peut pas dire qu'il faut procéder comme ça. Parce que là, on est encore à nouveau dans le mental concret, n'est-ce pas ? Qui se sonne et qui dit c'est comme ça, hein, on m'a appris comme ça, et c'est ainsi que notre médecine, pour l'instant, comme on dit, elle est sur les rails. Voilà, c'est... Voilà. Nous sommes en structure technocratique.
Oui, Bernard, je pense qu'elle n'a pas tort dans un certain sens en disant dans la mesure où tu es capable de te pardonner à toi-même, forcément tu vas pardonner à l'autre. Parce que tu vas retrouver dans l'autre, tu vas te retrouver toi-même. Donc forcément, si tu te pardonnes à toi-même, tu te pardonnes en même temps à l'autre.
Ce que j'ai exprimé, c'est que c'est selon le cas par cas.
Selon le cas par cas.
Parce que si tu veux, dans certains cas, tu vas dire, je vais d'abord suggérer qu'il faut qu'elle se pardonne. Mais à cette vie où elle est, alors que c'était des consciences relatives d'il y a 5-6 vies, ben elle n'est pas à même de raccorder. Si elle n'a pas la notion de renaissance, ben attends. Hein. Attends hein.
Ça, c'est le fait de dire qu'il faut pardonner.
Pardonner à qui ? Non, mais attendez, c'est moi qui suis violé, il faut que je me pardonne. Non, mais... Donc c'est selon le cas, hein, il faut faire attention.
Mais est-ce qu'il suffit de décider de vouloir se pardonner pour se pardonner, effectivement ? Que j'ai entendu des cas où des personnes croient qu'elles veulent changer et en fait elles ne veulent pas en vérité.
Ah et ben.
Je ne comprends pas bien entre les.
Ça s'appelle de la fausse humilité.
Exactement.
C'est du faux. C'est du faux.
C'est pour la guerre.
Et ça vient de travers souvent religieux. Parce que il n'y a que le paraître qui compte.
C'est pour la guerre.
Pas toujours. Par exemple, je connais des personnes qui veulent mincir, elles font des tas de traitements et elles n'y arrivent pas. Donc,
t'es dans un autre registre.
Et en fait, elles n'y arrivent pas.
Ben, elles n'y arrivent pas parce qu'elles.
Donc, c'est que tu ne veux pas.
Ben non, c'est parce qu'elles ne touchent pas la source.
Ouais,
le corps physique dans, c'est le dépotoir. C'est pas un principe énergétique. Je dis bien le danse, hein. Bon. De ce corps dense se déversent les énergies du plan mental. Le feu, l'agitation émotionnelle du corps astral, l'eau, et tout ça fait que si la personne est trop en mental, elle se dessèche. Si elle est trop en émotionnel, elle prend du volume. Et si elle fait les deux, elle fait de la graisse. Parce que l'eau et le feu, ça fait de la graisse. Donc le corps dense, tu peux... Il y a des personnes qui vont perdre, excuse-moi, des centaines de kilos au cours de leur vie. Je dis bien des centaines de kilos. Mais elles restent toujours pareilles, parce qu'elles ne touchent pas la cause. Or, la cause de tout ça, c'est la séparativité. C'est lié au mental du cinquième rayon dans sa phase inférieure. Alors que l'âme, c'est notre âme qui est dans l'océan de la sur-âme, c'est qu'il n'y a aucune séparativité. Ça n'existe pas dans la réalité. Mais notre individualité de conscience peut nous entraîner à la séparativité. Alors qu'en fait, la finalité, si vous voulez, c'est d'atteindre l'unicité. Je vais développer un peu pour que vous compreniez bien le sujet. Celui qui donne la vie à la planète, que vous l'appeliez la vie, que vous l'appeliez Dieu, que vous l'appeliez Allah, Bouddha, nous sommes en lui et il est en nous. Faisons simple, c'est la vie. Nous sommes un atome dans sa manifestation, comme les éléments de nos corps sont intégrés dans notre sphère de manifestation. Lui-même est inclus dans une sphère de manifestation plus vaste, qu'on va appeler un système solaire, qu'on va appeler un système cosmique. Si on remonte jusqu'à cet univers, nous arrivons en fait à la réalité qu'il n'y a qu'une seule vie à travers les univers. À partir de là, il n'y a qu'une seule âme universelle. Si nous définissons l'âme comme une conscience, Eh bien, en fait, chaque unité a un cercle limité au sein de cette conscience. Plus nous allons grandir en espace de conscience, plus une vie plus avancée vient à nous. Vous avez là le processus où nous ne sommes à la fois qu'un canal et nous pouvons de ce fait pouvoir dire « celui qui me voit, voit tel ou tel aspect père parce que je suis dans son champ de conscience ». Il faut donc vous attendre dans le futur à ce qu'on appelle le processus classique d'adombrement, à savoir qu'à un moment donné, une grande vie peut utiliser sa présence terrestre qui est suffisamment claire pour lui permettre un contact. Regardons naturellement des choses qui peuvent nous paraître en mental concret ahurissantes.
Et là, donc, ça veut dire que toi, notre canal, nos différents corps, comme vous dites, pouvoir accéder à d'autres niveaux de conscience, c'est-à-dire que là, plus on va nettoyer ces différents corps, plus on a la possibilité donc, de permettre à ces êtres de communiquer à travers nous.
Mais quand vous pratiquez des niveaux de conscience qui relèvent des plans supérieurs, quand vous pratiquez le vrai, la nature de cette énergie et du mental supérieur. Quand vous pratiquez le beau, c'est-à-dire en fait d'avoir une manifestation en parfaite harmonie avec l'ensemble où vous vous trouvez, hein, c'est ça, c'est l'élégance. Ça relève en fait des énergies bouddhiques christiques. Quand vous pratiquez le bien de l'ensemble, c'est-à-dire que vous servez la vie, pratiquer le bien de l'ensemble, c'est rentrer dans votre contrat de vie, c'est ce qu'on appelle le dharma. Servir la vie, et vous avez chacun de nous, quand il est arrivé à ce stade de réalisation, a un contrat de vie en lui. Bon. À partir de là, quand vous utilisez le beau, mais c'est l'énergie christique que vous utilisez. Donc, pourquoi vous voulez que celui qui est à l'origine de tout ça ne puisse pas s'exprimer par votre canal, puisque en fait, vous l'utilisez.
Donc, en fait, en l'utilisant, mais là, on permet, en fait...
Mais lui, il le sait. Mais lui, il le sait.
On est de même nature.
Hein?
On est de même nature à ce moment-là.
Mais oui, il va te dire tout simplement, je suis en toi, tu es en moi. C'est l'unicité de la vie. Essayez d'imaginer l'envers extraordinaire du décor. Voilà. Simplement, c'est quoi? C'est des aspects de la réalité de la vie. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est de justement d'éliminer cette grande illusion de la séparativité. C'est là où vous avez notamment toute la richesse du travail énergétique de groupe qu'on appelle la méditation. Parce que quand vous faites une méditation de groupe, vous pénétrez avec une dimension décuplée dans l'espace de conscience. Or, la pensée et lumière, c'est de l'énergie qui devient substance. C'est ainsi que se construisent les mondes. vous allez... Ah, il faut bien comprendre, quand on emploie le terme père, on emploie, en fait, c'est un terme générique qui, au même titre qu'il y a le Christ et les Christ, eh bien, c'est un terme générique qui désigne les êtres plus avancés, donc anciens, hein, voilà, et qui sont entrés dans cette dimension père. Mais père, ça peut regrouper tous les pères, hein, au pluriel, c'est-à-dire tous les guides, hein, bon, à tous les niveaux que ça puisse apparaître. Mais à partir de là, vous pratiquez les énergies qui sont de leur nature essentielle, le Père vient à vous. Celui qui donne la vie au plan bouddhique, c'est d'un côté le Bouddha d'amour, hein, qui est un des trois aspects du Père, et l'énergie, c'est l'énergie d'Indra. L'aspect mère, hein, puisque les deux font père-mère. Mais c'est pour que vous compreniez. Donc quand vous rentrez dans cette élévation spirituelle ou divine, et bien à partir de là, ben, vous êtes cela. Où est la complication? Ce qui veut dire que nous avons à rentrer dans la nature... Donc les qualités de celui qui donne la vie à la planète. Et nous savons par définition que la nature, son corps éthérique, c'est le vrai. La nature de son corps émotionnel, c'est le beau. La nature de son corps mental, c'est le bien de l'ensemble. Bon, quand nous pratiquons cela, nous intégrons en nous ces foyers de rayonnement et bien évidemment le Père vient à nous, hein, symboliquement. Bon, le vrai, le beau, le bien, la synthèse et le pur. En prenant compte que le bien de l'ensemble, c'est dans ce dessein divin, nous avons notre part de contrat dharmique. Eh bien, en faisant cela avec constance, en évitant la défaillance, c'est ainsi que nous atteignons la perfection. Pureté, perfection vous donne puissance divine. La perfection, elle est dans un premier temps par l'absence de défaillance à la pureté et, bien sûr, à l'accomplissement dharmique. La perfection, elle est dans la constance à être en état samadhique, c'est-à-dire en étant toujours en double regard, la tête au ciel et les pieds sur terre. Voilà le challenge qu'on a. Mais puisque la vie est une, nous sommes à jamais des éternels pèlerins. Mais bien évidemment, pour atteindre le plan hadit cosmique, comme dirait l'autre, il y a des cycles et le chemin est long. Mais c'est la vie. Voilà. Simplement, nous répondons au premier postulat de l'absolu, il n'y a aucune gloire et de cela. Donc, évolution au mérite. Manque de sympathie et de respect. Là, on touche la réalité de la séparativité. Parce que, regardez dans le monde aujourd'hui, hein, tel qu'il est aujourd'hui, on va dire que y a une agitation sauvage, et à l'origine, c'est un manque de respect de l'autre. Oui, et de soi-même, oui, bien sûr. Préjugés, c'est des idées arrêtées, toutes faites, collectives. C'est très curieux d'ailleurs parce que il y a quelque chose qui est un non-sens. Séparativité, et curieusement, sur le plan mental, c'est la pensée unique.
Exactement.
Qu'on nous oppose. Ah, c'est marrant quand même, comme schéma. Alors qu'il faut être rebelle. Mais un rebelle positif. Bon, on va regarder quand même les vertus, hein, parce que... Bon. Alors, notion strictement précise. Là, on est dans l'analyse. Au-dessus de justice, j'aimerais que vous mettiez justesse.
Quel
cas ? Ben, moi, j'ai le 28, oui, ça doit être ça. Justesse, équité, mettez au-dessus, hein. Justesse, équité. Persévérance. Bon sens. Droiture. Alors là, on rentre en fait dans les aspects du mental supérieur. Le mental humain est mobile. Le mental divin de l'homme céleste est immobile. Ça veut dire quoi pour nous ? Ça veut dire gérons notre espace mental, qui s'avère être une place de la concorde, où nos sens sont comme des artères de l'étoile, et où arrivent en permanence des formes pensées. Si bien que cette place de la concorde, qui est notre mental inférieur, c'est souvent un embouteillage parce que les sens n'arrêtent pas d'envoyer les informations. Moyennant quoi, notre mental, qui est notre outil créateur, eh bien, il est dispersé dans son afflux d'énergie sur tel ou tel sujet, et par conséquent, il se disperse. La première des choses, c'est de gérer cet espace mental pour gérer nos sens qui sont des centres d'information et bien évidemment nous concentrer sur le sujet choisi, d'où l'art de la méditation qui devient spirituel lorsque cet alignement se fait en vertical. Mm-hmm. Donc droiture a ici bien sûr un double sens. C'est cette qualité de comportement d'état intérieur, mais c'est aussi le fait d'empêcher notre mental de fonctionner comme un serpent qui, sans arrêt, comme on dit, zigzague. Indépendance. Je vous suggère de mettre en dessous rebelle. Ce qui veut dire n'accepter, ne pas accepter ce que l'autre, terme général, hein, ce que l'autre vous dit si ça ne vous convient pas. Il faut exercer le discernement. Parce que vous usez de ces principes, votre intelligence vive passe en majuscule. Puisque nous entrons dans le vrai.
C'est quoi l'intelligence vive ?
Eh bien, c'est l'intelligence du cœur qui relève du Saint-Esprit, pour parler, c'est-à-dire que il y a un alignement entre le mental universel et le mental supérieur. Quelle est la différence entre... Là, je vais répondre, Oui, c'est toi qui m'avais posé la question sur la différence entre les deux. Hein? Alors, le mental supérieur est de nature spirituelle. Donc, il relève de l'âme dans sa dimension propre de son domaine, le mental. Quand l'être rentre dans non plus la fusion avec son être, mais qu'une deuxième fusion s'engage naturellement avec sa racine de vie, c'est-à-dire avec le Père, et qu'à partir de là, il use de l'énergie d'intelligence, de l'énergie d'amour-sagesse, mais il cherche à pénétrer le dessein de celui qui donne la vie à la planète. Et qui dit, au fait de tout ça, eh bien en fait, il y a le pourquoi de cette planète. À partir de là, il cherche à pénétrer une nouvelle énergie qui s'appelle la volonté. Et à partir de là, il y a le processus de fusion de l'aspect spirituel et de l'aspect divin en lui. Le spirituel est lié à l'amour-sagesse. Donc si on veut regarder au niveau de l'aspect intelligence, puisque vous savez qu'il y a toujours la triplicité, l'intelligence va s'épanouir spirituellement en intelligence du cœur, puis elle deviendra l'intelligence universelle, c'est-à-dire le mental universel. Même si c'est lié à notre planète, sachez qu'il y a un au-delà à tout ça. Le mental cosmique te projette encore plus loin, et puis ensuite le plan atmique cosmique te projette encore plus loin. revenir à ce que je vous disais quand les pères viennent à nous, hein, le père, il faut respecter cette unité, hein, le père vient à nous. Mais n'oubliez pas qu'un dessein du père, c'est de dire, moi, Dieu, je suis matière. Donc, les pères ont ce dessein. Ce qui veut dire que le but, c'est que des êtres, dans leur état divin, marchent sur la terre. Et c'est pas hors de portée. Chacun peut l'assumer. Si vous ne le faites pas dans cette vie, vous le ferez dans une autre, mais vous le ferez un jour. Vous, de toute façon, vous avez mis les pieds dans la cinquième reine, donc, comme on dit, vous ne pouvez pas faire demi-tour. Trop tard. Tant pis pour vous. Ou tant mieux pour vous. Hein ? Ah oui, oui. Vous avez des questions sur ce domaine ? Ça va ? Est-ce que je fais bon usage du cinquième rayon ? Bon, les vertus à acquérir. Bah, c'est le respect. Et vous voyez ce que ça donne dans notre société aujourd'hui, hein, on l'évoquait. Dévotion, là on est sous l'aspect du sixième rayon. Et la dévotion, c'est la dévotion à un idéal. L'astral est une excroissance du mental. Hein, on l'a évoqué. Bon. Alors, sans idéal, l'humanité s'égare. Toute cette agitation émotionnelle a à se reconvertir en imagination créatrice. Et là, vous avez les deux aspects liés au mental et son aspect dévotionnel, à savoir un idéal et l'imagination créatrice pour s'avancer dans cet idéal. Sympathie. Au-dessus, vous mettez bienveillance. Certains termes, si vous voulez, sont en relation avec l'aspect âme. De temps en temps, je vous donne un aspect divin. L'aspect supérieur de la sympathie, c'est la bienveillance. Et alors là, on est en relation avec le 4. C'est-à-dire le plan bouddhique christique. En vous rappelant que la signification du nom personnel de Maitreya, c'est le bienveillant. Pour couper court à la critique, et comprendre mieux l'aspect bienveillance. Nous avons à regarder tout être humain et ses comportements avec cette intégration instinctive dans notre mental, à savoir en chacun de nous, il y a la vie. la vie a des lois immuables. Et en ce qui concerne le mental, la loi de justesse à ce propos s'appelle la loi de karma. Sachant cela, tout comportement non à l'équilibre des justes relations entraîne inexorablement le retour en champ d'épreuve. Cela doit libérer notre mental de cette réactivité à vouloir régler nos comptes. La démarche d'amour, c'est tendre l'autre joue, c'est-à-dire comment aider cet être à sortir de cette faiblesse. Cet instinct spirituel, si nous l'avons, va nous soulager de notre propre ornière karmique. On va marquer un peu de temps de réflexion, hein, parce que on est sur vraiment un gros rocher d'achoppement là.
J'ai une petite réflexion, Bernard. En t'entendant, j'ai comme l'impression qu'on améliorerait, disons, les vices de ce rayon en appliquant en reprenant tes termes, des vertus du sixième rayon et du quatrième. Donc, comme s'il y avait une balance. C'est le rayon 5.
Il est entre deux. Hein.
Oui, il est entre, voilà.
Il est entre deux. Ce que tu évoques, il faut... Mais je te suis. Attends. Avec précision suivante. Chaque rayon a les 6 autres.
Oui, bien sûr.
Bon. Donc, quand on évoque le 4 et le 6, on évoque en fait le sous-rayon 4 du 5. Hein, et le sous-rayon 6 du 5. Bon. Ce que tu évoques, je te suis... Et il faut saisir que les rayons ont à fusionner entre eux pour faire la lumière blanche. Et chacun de nous a à synthétiser les 7 rayons.
Oui, ok. Et c'est cette espèce de balance que je vois tout comme le funambule qui se balade sur le 5 avec le 4 et le 6.
Voilà. Et surtout quand tu sais que le 4 est lié au plan bouddhique, que le 6 est lié au plan astral et qu'en fait l'énergie du plan bouddhique doit clarifier, pénétrer le plan astral, hein, et que pour l'instant, si tu veux, c'est le mental humain qui est en positif au lieu d'être récepteur du plan bouddhique, fait que il impose sa séparativité et a généré le plan astral. Donc voilà. Non mais c'est tout à fait juste en réflexion. Il faut cultiver le rapprochement des rayons, mais dans leur bon alignement. Et ces rayons peuvent s'harmoniser dès l'instant où, par le plan, les champs de conscience, procèdes à leur alignement.
Moi, je comprends pas. Il peut y avoir un mauvais alignement ?
Oui. Notre mental. Oui. Le mental concret. Le mental doit être le véhicule d'expression du plan bouddhique ou christique. Donc, l'harmonie, la paix, la clarté, la bienveillance. Bon. Mais comme actuellement, il est dominant et séparatif, eh bien, il empêche le plan bouddhique d'être exprimé par lui.
C'est ça qu'on appelle un mauvais alignement, en fait.
Bah, oui, parce que sa fonction n'est pas assumée. Il est à l'envers. Il est à l'envers. Si tu veux, quelle a été la difficulté ? La difficulté, c'est qu'à un moment donné, l'être humain doit édifier son corps mental. Hein ? Tu suis là-dessus ?
Oui. Bah.
Ce qui génère chez lui l'individualité de conscience. Ce qui veut dire que dans la traversée du règne humain, la vie qui se présente à ce niveau d'évolution doit acquérir, c'est le don du quatrième règne, l'individualité de conscience. Bon. Mais c'est pas parce qu'il est en individualité par rapport avant à la conscience de masse, bon, que, ou de troupeau, que il doit dire je fais plus partie de l'ensemble. Bon. Malheureusement, il y a eu dérapage de notre humanité. C'est pas le cas de beaucoup d'humanité. Hein. Bon. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'à s'être séparés, les êtres doivent un par un, individuellement, reprendre le bon alignement. C'est-à-dire le don que la vie me fait dans la traversée du règne humain qui est l'individualité de conscience, c'est pas pour autant que je ne dois pas être parfaitement conscient que je suis qu'une unité dans un vaste ensemble. Mais le piège, c'est de dire « Ah non, c'est moi le centre du monde. » Voilà. Alors, en faisant cela, qu'est-ce qu'a fait l'être humain ? Eh bien, il a renversé sa polarité de son mental. Il a tourné le dos à sa réalité supérieure. D'où la séparativité.
Et rien que cette prise de conscience allège l'ornière karmique ?
Ben parce qu'on est dans le vaste ensemble. Autrement, c'est que tu te repositionnes en séparativité.
C'est un acte sexuel manqué.
Imagine la puissance de l'humanité lorsqu'elle sera alignée. Bien, elle deviendra dans sa réalité divine. Alors, si tu veux t'intéresser aux avantages de tout ça, eh bien, la première des choses, c'est que d'une part, tout ce qui a été les conséquences de la séparativité vont tomber, à savoir la vie est éternelle, la mort est une illusion et heureusement c'est bien fait. Bon, va enfin émerger le monde attendu par son créateur, et à partir de là, on peut imaginer que sa puissance créatrice est comment ?
Infinie.
Voilà. Donc on sera dans des merveilles d'évolution. Mais non, on préfère, comme on dit, voilà. Voilà. Mais lui ne peut pas donner plein tant qu'il n'a pas des éléments alignés. C'est d'où la puissance du groupe, pour parler sous cet aspect-là. Quand vous êtes en travail de groupe, hein, en méditation de groupe, vous n'imaginez pas la puissance qui est déployée. Comme il a été dit, au niveau des montagnes, ils le bouleverseront. Voilà. Terme symbolique pour indiquer cela. C'est un des rayons dont il faut avoir beaucoup d'attention parce que, par définition, il est lié au cinquième règne. Qui a cette dualité en lui d'être à la fois en éveil, en réalisation spirituelle et en vécu terrestre. D'où la difficulté. Et amour, vous voyez, c'est l'alignement christique, c'est-à-dire que le mental n'est plus qu'un outil au service des réalités supérieures. Alors, comme l'a souligné en passant Joël, amour, ben oui, amour, dans ce cas-là, veut dire bon alignement sexuel, sacré. Le mental, si vous voulez, doit être la croisée de l'énergie, de l'esprit et de l'énergie de la matière. Et comme le 5 nous amène au plan atmique, là nous sommes dans le mental universel et par conséquent largesse d'esprit. Ben vous êtes dedans, hein ? Si vous voulez dire est-ce que je suis concerné, est-ce que c'est hors de portée ? Ben non, vous êtes dedans. La meilleure preuve, c'est que je suppose que vous n'êtes pas en inertie mentale et que par conséquent, si vous suivez, c'est que c'est clair pour vous. Hein? Bon, à partir de là, vous êtes en mental supérieur et puis si vous élargissez un peu, vous êtes en mental universel. N'oubliez pas, les mots, c'est des prisons à idées.
C'est ça aussi.
Et donc il faut aller chercher l'idée derrière un mot. Bon, je vous laisse lire les commentaires, hein. On va passer au sixième rayon. En vous rappelant que nous sortons du sixième rayon. L'air des poissons, ouais. et notamment les églises, et plus particulièrement l'église chrétienne, était sous l'influence du sixième rayon, mais malheureusement dans son aspect inférieur, Mars gorgé de sang, et non pas Neptune gorgé de vie.
Ou Mars ou guérisseur.
Alors, vice du rayon. Nous sommes dans la dévotion, ce qui va nous donner dans ce domaine les intégristes. Alors, amour égoïste et jaloux. Celui qui n'est pas baptisé, il va en enfer. Appui exagéré sur autrui. C'est pas moi qui est en dévotion, c'est lui qui doit se dévouer à moi. Nous sommes dans le transfert. Partialité. Le commentaire que j'ai fait sur l'aspect religieux précédemment, c'est uniquement pour vous illustrer comment ils ont été touchés par ces tendances. Hein, mais il n'y a pas que les chrétiens. Hein. Tendance à la déception. Sectarisme. Tendance à la déception, vous pouvez mettre au-dessus faute. Notion de faute. Superstition. En dessous, vous pouvez me suivre éventuellement si vous voulez. Je mettrai bondieuserie. Pardon ? Je vois que tu exerces clairement le cinquième rayon. Il faudra que tu me donnes ton grossissement, hein, parce que là, tu travailles au moins avec 10 de grossissement. Enfin, c'est quand même inquiétant, parce que tu ne vois pas forcément clair dans ce que j'ai exprimé. Bon, allez, on blague. Préjugés. Alors ça, c'est là encore, vous avez un aspect, si vous voulez, de manque de discernement, d'idées reçues. Et c'est ce qui a malheureusement... Ne prenez pas mes propos pour une mise en cause, mais simplement c'est pour illustrer un peu les incidences qu'il y a eu. C'est que la pensée de Dieu est impénétrable. On ne peut pas savoir... c'est-à-dire qu'en fait, il y avait la destruction même de l'idéal. Par contre, vous devez avaler tout, hein, tout cru. Hein, tout cru comme ça. Oui, mais ça. Les petites filles naissent dans les roses et les garçons dans les choux. Hein. Et vas-y, t'as ton paquet.
Oui, mais c'est plus dans le sens de l'obturation, en fait. C'est l'obscurantisme.
Bah oui, mais c'est l'opposé même de l'ouverture à l'idéal.
Oui, non, mais bien sûr, mais circuler, il n'y a rien à voir.
Quoi. Oui, bah oui, mais tu comprends, c'est
parce
le.
Parce que comme ça, on peut les manipuler beaucoup plus facilement.
Exactement.
Conclusion prématurée, bah, c'est-à-dire on ne cherche pas à comprendre. Hein, c'est comme on dit, plaque, terminé. Circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Violence ou violente colère, bah, vous le voyez dans tout ce qui a été intégrisme, hein, c'est-à-dire notamment l'Inquisition et aujourd'hui. Hein, hein, bon. Alors bien évidemment, vice du rayon, bah, en fait c'est quoi vice du rayon, hein, je ne sais pas si je vous l'ai évoqué. Qu'est-ce qu'on entend par vice du rayon? Vous avez les robes de la mer. Vous avez la pensée émanant de l'esprit, hein, donc père, qui pénètre les vices, c'est la réponse lunaire qui n'est pas encore appropriée à ce qui devrait être.
On pourrait dire que c'est l'interprétation de l'énergie qui descend par les
de l'aspect mère. C'est pour ça, si vous voulez, que pour parler d'une façon plus personnelle, chaque être qui rayonne génère autour de lui l'énergie dont il est le filtre, et cette énergie est neutre, c'est-à-dire que si elle tombe dans une bonne terre, c'est-à-dire chez un être qui est en conscience solaire, ça va lui apporter une ouverture. Non, j'ai oublié de l'arrêter. Excusez-moi. Et par contre, si c'est une personne qui est encore en lunaire, ça va activer. Voilà. D'où, dans ce domaine, toujours être prudent pour ne pas, par le souci de faire du négatif, de ne pas faire faire du négatif à autrui, eh bien, c'est de tenir à distance en fait les êtres pour que le moment venu ils puissent s'épanouir vraiment en solaire, en connaissance de cause. Hein, bon. Vertu spéciale du rayon. Dévotion à l'idéal. Là, pour ceux qui font un peu d'astro, vous pouvez mettre au-dessus vertu spéciale, vous pouvez mettre Neptune. Hein. Unité d'intention, c'est encore lié à l'idéal. Et il y a du cinquième sous cet aspect-là, parce que c'est à l'opposé de la séparativité, donc on est en mental. Hein. Amour, alors là on est dans le quatrième. Dont l'assimilation dans le sixième donne tendresse. L'intuition, c'est l'énergie propre du quatrième plan. Hein, puisqu'en fait, c'est la faculté supérieure du mental, l'intuition. Loyauté. Là, on est encore dans le cinquième rayon, puisque c'est clair, être clair. Le respect, ça, on est dans le septième, là. Vertu à acquérir. Au-dessus de force, vous mettez endurance. Sacrifice de soi. Au-dessus, vous mettez oubli de soi. Pureté, ben c'est en opposition avec le préjugé, ça. Quand tu as des préjugés, tu mets des casaques sur les autres. C'est à partir de là que tu souilles et tu te souilles. Or, pureté, c'est dans sa dimension, le vrai, le beau, le bien. Tu vois donc ta vérité, tu vois, tu le retrouves à côté. Tolérance par rapport, par opposition à sectarisme. Et vous pouvez mettre au-dessus respect de la différence. Vous le voyez dans le vaste tableau de l'unité dans la diversité. Hein, c'est très curieux quand même de penser que les hommes n'ont pas encore saisi que de l'unité, il peut y avoir toute cette richesse de la diversité. Hein, rien que dans les formes, vous imaginez si on était tous pareils. Sérénité. C'est lié à la force et à l'endurance, la sérénité. Hein, vous savez que dans la définition, vous avez eu les 12 observances. Hein, oui. Bon. La sérénité, c'est pas, comme on dit, d'aller s'isoler dans le désert où on sera pas du tout touché par les tentations ou les agitations, mais en fait, sérénité, ça veut dire rester serein même si tout s'agite autour de soi. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas, quand on ne fait pas ça, eh bien le Père, la vie en nous, ferme la porte de protection. Faut pas oublier qu'il y a une interconnexion entre lui et nous. Équilibre. Il est bien évident, si vous voulez, que le sixième rayon, c'est lié, entre autres, avec l'astral en tant que correspondance numérique, que par conséquent, c'est le monde des eaux. Hein, et il y a beaucoup de fluidité et donc d'agitation dans ce domaine-là. Bon sens, eh ben c'est lié à la clairvoyance. Hein, faut avoir du discernement. Vous voyez, je n'ai fait qu'évoquer tout à l'heure, l'homme de ce rayon est rempli d'instincts et d'impressions religieuses. Il a des sentiments personnels intenses, rien n'est pris normalement. À ses yeux, les choses sont parfaites ou intolérables. Ses amis sont des anges, ses ennemis tout le contraire. L'aventure de l'Église reflète très bien hein, cette impression pendant 2000 ans du rayon. Le septième rayon dans lequel nous entrons, nous sommes entrés, l'ère du Verseau. On va commencer par les vices. Formalisme. C'est l'intransigeance. Ça, c'est lié avec le cinquième. La bigoterie, c'est lié avec le sixième. Je ne vais pas développer, hein. Vous voyez tout de suite ce que ça veut dire. Hein. Hein. Oui, au cul béni. Bon, passons. Les petites filles qui vont à la messe et qui se mettent des coussins sous les fesses. Hein ? C'est quoi ? Fierté. Alors là, j'aimerais qu'on fasse des nuances quand même en matière de fierté. Bien sûr, c'est lié à l'orgueil, donc au cinquième rayon. Mais il y a une fierté supérieure qui est liée à un idéal et pour une cause qui dépasse... je parle par exemple de l'homme d'État qui portera haut les couleurs de son pays.
On va dire le chevalier, parce que l'homme d'État, voilà. Je ne sais pas s'il porte très haut.
L'homme d'État peut s'écrire en minuscule ou en majuscule, mais dans la réalité, un homme d'État, c'est un serviteur de toute une partie de l'humanité.
C'est ce que ça devrait être.
Ah bah oui, autrement, c'est pas un homme d'État. Si, comme on dit, il fait carrière pour lui et autres. Vous savez, depuis la guerre, on a vu... d'anges de présence et beaucoup de gardiens du seuil. Hein. Je veux dire par là, l'ange de présence, c'est celui qui essaye de porter l'âme de son peuple. Le gardien du seuil, c'est celui qui porte les travers de personnalité de son peuple. Voilà. Et un peuple mérite les hommes qui leur conviennent. Je veux dire par là qu'on a eu plus de gardiens du seuil que... Voilà. Mais quand c'est un ange de présence, il a le détachement du serviteur et l'abnégation personnelle. Quand on n'a plus besoin de lui, il sait se retirer, il ne s'accroche pas. Il ne fait pas carrière. Jugement superficiel.
Étroitesse d'esprit, qu'est-ce que c'était ?
On l'a vu tout à l'heure, non ? Je peux le répéter, hein, mais je veux dire l'étroitesse d'esprit, c'est-à-dire que il n'ouvre pas son champ d'investigation sur un sujet, il s'enferme tout de suite, donc il y a un défaut au niveau de l'analyse, et il s'enferme tout de suite dans la solution. C'est un peu logique parce que le septième rayon est lié à la synthèse. Hein, puisque c'est celui qui unit l'esprit et la matière, le septième rayon. Bon. Hein, n'oubliez pas que dans le positionnement des cycles, il est en fait en quatre, lié au plan terrestre. Or, dans la descente dans la matière, au plan terrestre, c'est le quatrième plan qui est le 7 et dans le 4, est au 4, dans le cycle. Vous suivez ça ou pas là ?
Non, pas du tout.
Nous prenons une ronde. Alors, on va le prendre au niveau de l'être humain. Là, nous sommes au plus bas, hein, son corps physique. Bon. Mais si nous le prenons dans sa descente dans la matière, eh bien, il y a le plan astral, le plan mental, hein, le plan astral, le plan physique. Mais à ce moment-là, si vous voulez, il devient le 4, à partir de l'âme.
D'accord.
Le quatrième globe, si on prend le plan terrestre, le quatrième globe est en fait le plus bas, le septième. C'est quelque chose qui trouble bien souvent des êtres très spécialisés dans l'astrologie. Notre système solaire est du quatrième ordre, c'est-à-dire qu'il est au plus bas dans la matière. Donc il est en incarnation physique. Donc si vous les décomposez depuis l'esprit et la matière, hein, vous allez avoir le corps physique et le 7. Mais dans sa manifestation, en fait, il devient le 4. Et c'est pour ça, si vous voulez, que le quatrième plan, qui est le plan bouddhique, est le plan particulier du septième rayon.
Voilà, j'ai pas compris la fin. Hein. La dernière phrase, j'ai...
Ben non, parce que je joue avec cette subtilité relationnelle entre le 4 et le 7.
4 et le 7, oui.
Regardez bien.
Le corps physique est le 7.
Vous prenez les sept plans. Hein ? Les sept plans. Ah bon ?
Oui, c'est d'accord.
Adi, monadique, atmique, bouddhique. Bon. Bien. Vous avez les sept plans. Le quatrième plan est au milieu des trois du haut et des trois du bas.
Mmh.
Ouais. Bon. Quel est le rayon qui unit les deux pôles de la vie, esprit-matière ? Non ? Oui. Le septième rayon. Bon. Eh bien, dans ce processus non plus d'alignement du mental, mais dans sa réalité de manifestation, eh bien, c'est le 7
et le 4. Ah oui, d'accord, il est au milieu.
Bah,
oui. Mais alors, qu'est-ce que vient de faire Hironde ?
Mais parce que quand tu pars de ton être, de ton âme,
oui,
et que tu t'incarnes, tu descends pas, comme on dit, du 5...
Ah oui, il y a des cycles.
Bah, tu fais ça, c'est-à-dire que tu descends corps mental, corps astral, corps physique, et tu vas remonter corps éthérique, corps astral, et tu reviens. Donc tu fais une ronde.
Bernard, on n'a pas vu les cycles.
Non. Non, mais quand je parle de cycle ou de ronde, une ronde, c'est... Toi, quand tu fais une ronde, t'es dans ton être, ton âme. Donc, t'es là-haut, sur le plan mental. Bah, tu vas descendre t'incarner. Donc, tu vas prendre un corps mental.
Ouais.
Tu prends ton corps émotionnel, astral, t'es sur l'astral. Puis, tu descends sur le plan physique. Bon, et puis quand tu vas mourir, tu vas quitter ton corps physique, tu vas sortir en corps astral, en corps mental, et tu te retrouves en tant qu'être. Tu as fait une ronde. C'est ton cycle.
Descente et
de...
remontée, en fait.
Donc, alors, c'est ton cycle de manifestation. Tu comprends? Bon, alors la subtilité, c'est qu'en fait, la descente le plus bas. Si tu comptes les plans, en fait, t'es descendu au 4, et pas au 7. Est-ce que tu comprends le chemin? Donc, il y a un relationnel à comprendre entre le 7e rayon qui, par sa définition, unit les deux pôles, mais il est en fait sur le plan bouddhique.
Donc, il y a une relation entre le 4 et le 7, c'est ça?
Voilà, c'est ce que j'essaye de faire saisir.
C'est pour ça que le fil de vie vient s'accrocher sur le centre du cœur, par rapport à cette liaison esprit-matière.
Ouais, t'as la concordance numérique. Quand tu veux saisir la précision de quelque chose que t'arrives pas, tu as un, la loi d'analogie, et deux, la loi numérologique, les nombres, les relations numériques.
Bon, j'ai bien compris la relation entre le 4 et le 7, et maintenant dans le cycle de manifestation, la ronde que tu nous as décrite, on est où?
Ben là, tu es sur le 4 pour l'instant. Tu es descendu dans la matière.
On est dans la matière. Mais on est sur le 4. Donc,
tu es descendu.
Dans le cycle, on est à quel endroit?
Ah ben là,
on descend et on remonte, donc on est en bas.
Alors attends.
On est en bas.
T'as ton être là.
Oui, d'accord, ça y est, j'ai compris.
T'as ton être. Et toi, tu es là ici.
D'accord. Donc en fait, on est en bas du cycle, on est dans la manifestation.
Voilà, là pour l'instant, t'es qu'à un, là. Et là, ici, il y a Abel.
Mmh.
Bon. Eh bien, tu vas prendre ton corps mental, hein, là, et puis là, t'as le mental supérieur, mental,
un concret,
astral,
éthérique,
et dense. Voilà. Et bien, tu es sur le 4.
D'accord.
Puisque 1, 2, 3, 4. Non, je précise ça parce que parfois ça peut troubler complètement parce que en conscience, au lieu de faire l'alignement de haut, il faut le faire sous forme de ronde. Alors, nous en étions trop d'indulgence pour l'opinion personnelle. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil, on est persuadé qu'on a raison. Et on ne peut pas avoir forcément tort. Alors,
tu veux dire qu'on croit posséder la vérité, en fait, on possède une vérité.
On se limite. Il y a une tendance à être sectaire, un peu. Parce que on se limite à notre point de vue. Hein, retenons toujours ceci. Vous êtes en table ronde. Regardez. Vous êtes en table ronde. Chacun voit le centre de la table. C'est la réalité. Eh bien, chacun ne la voit pas pareil. Et pourtant, chacun voit le pot au milieu. Alors, les vertus à acquérir. Réalisation de l'unité. Élargissement de l'esprit.
Ben, c'est un vaste objectif, sa réalisation de l'unité.
Ben, oui, mais c'est la finalité.
Ah, oui. Mais tout le monde l'a, non ? Il n'y a que le 7 qui l'a.
Dis-toi bien que tu passeras sous tous les rayons.
Oui. Enfin, l'unité, moi j'ai compris que c'était quand même l'objectif de général.
Je vais l'écrire autrement pour toi spécialement. Tout en haut, c'est l'esprit. En bas, c'est matière.
Oui.
Alors, 1, 7. Oui. 1, 7. Oui. L'unité, c'est...
C'est tout ça.
Ça va ?
Bon, c'est tout ça.
Quand tu peux symboliquement t'agenouiller et faire le geste symbolique d'embrasser la terre, et que tu peux dire en conscience, moi Dieu, je suis matière, eh bien tu as assumé l'unité.
Chantal est en pleine béatitude.
C'est très beau, je l'ai compris, mais ce qui me surprend, c'est que c'est dans le 7. Je pensais que c'était... Bah non, c'est l'essence du 7, en fait.
Mais le 7, c'est le 4 et le 3.
Mmh. Ah oui, c'est le 4 et le 3. D'accord, c'est... Le 1, c'est la magie.
Je te le traduis en géométrie.
Géométrie.
C'est alors que le carré pivote pointe en haut.
Oui, je me souviens. Et après, il y a
et se sépare en deux.
Oui.
Et l'un rejoint le haut, l'autre rejoint le bas. Tu te rends compte les enjambées de la vie, hein ? Tu imagines cette vie qui donne vie au cet univers, il a la tête sur le plan indique cosmique et il a le pied sur le plan terrestre. Et il couvre cet univers et sept plans cosmiques. Or nous, qui venons de là-haut, lentement, nous avons à remonter jusqu'à lui. Or, tu vas le faire par les prises de conscience et ton service à la vie.
Parce qu'en plus, les barreaux de l'échelle sont au feu ouvert, hein, donc... Il ne faut pas rater la marche.
Surtout l'avant-dernière. Surtout l'avant-dernière parce qu'elle est glissante. Et la dernière parce qu'elle n'existe pas.
Et alors, est-ce qu'on peut le rapprocher à la géométrie qu'on avait vue la fois dernière, avec le losange, enfin le carré pointant haut,
oui.
Le rond et le point.
Oui. Oui.
Comment on raccroche avec le rond et le point?
Eh bien, en bas. C'est... En bas. Tu as la quadrature du cercle.
Oui.
Et en haut, tu as le cercle quadraturé.
Il est dedans.
En bas. Je vais le prendre quand même comme ça, hein, carré mais pointe en haut.
Oui.
Tu as à déployer l'esprit au sein de la matière.
Oui.
Là-haut, ils ont en fait à déployer le cercle quadraturé, c'est-à-dire qu'il faut.
C'est ça qui suffit. Hein.
Il faut que le carré, c'est-à-dire qu'il faut que l'essence de la matière remonte au ciel. Et ici, il faut que l'essence de l'esprit descende sur la terre. Là-haut, ils ont un contrat. Hein. Il faut pas penser, hein, celui qui donne la vie à la planète, il doit récupérer l'essence. C'est pour ça que tu as, si tu veux, le challenge. Quand tu es sur Terre, tu travailles pour là-haut.
Oui.
Voilà.
Et quand tu es là-haut,
donc,
tu travailles pour la Terre.
Donc tu dois assumer ça.
L'essentiel.
Oh.
Bah oui, tu dois faire monter l'essence de la vie au ciel.
Et le point du milieu?
Ben le point, c'est la vie. C'est ta racine de vie. Donc, comme tel, le point, c'est la manifestation. C'est, si tu veux, hors manifestation, tu as l'absolu. Dit autrement pour compréhension, le silence. Bon, c'est hors manifestation. Quand l'absolu exite une manifestation, le point devient la vie. Donc l'un non manifesté.
Ça me parle bien la géométrie.
Tout est fait par la géométrie et le nombre.
Il y a nul d'entre ici, c'est une géomètre.
Hein?
Il y a nul d'entre ici, c'est une géomètre. La devise qui était gravée.
Enfin, moi, ça m'aide. Bon.
Ben oui, mais c'est pour ça, si tu veux, que c'est toujours bon de donner un autre mode de lecture. Mais, simplement, nous sommes dans les métasciences, donc la science du sacré. Je termine, hein, et puis on aura fini la partie rayon. Alors, on en était.
Vertu.
Tolérance. Là, vous avez un relationnel avec le 5. Hein. Tolérance. Hein. Humilité. Là, c'est un relationnel avec le premier rayon. Le respect est à associer aussi au premier rayon, puisque en fait, si vous voulez, dans la réalité, il n'y a que des vies plus avancées, donc des anciens. Gentillesse et amour, ben là c'est lié au quatrième rayon. Hein. Vertu spéciale, force, endurance au-dessus. Abnégation, qu'on retrouvera avec le courage. Persévérance, ben vous l'avez les trois mots là, ça se recouvre. Courage et abnégation. C'est absence de peur.
qui est un mirage. Le courage est lié aussi à l'aspect vie, dans la mesure où la vie est don. D'ailleurs, le Maitreya, il y a 2000 ans, a bien insisté là-dessus, hein, le don de la vie. Hein, donner sa vie pour sauver...
Donner sa vie pour ses amis.
Pour ses amis.
Il n'y a pas d'ennemis.
Justement.
Il n'y a qu'un manque d'amour.
C'est ça.
Il n'y a pas d'ennemis, il y a un manque d'amour. Grand soin dans les détails. Ça, c'est lié à l'aspect architecte. Confiance en soi. Vous mettez au-dessus foi. Et le soi, j'aimerais bien que vous mettiez un S majuscule. Clarifions l'aspect confiance en soi. Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est l'intime conviction en quelque chose qui pour vous est réalité. Si vous êtes dans cet état que en chacun de nous, en vous, il y a le Père, la foi, c'est de se dire « je suis dans la main du Père ». À partir de là, qu'est-ce que vous craignez ? Vous savez, la main du Père, c'est être discrète. Je veux dire par là que si vous n'avez pas un solde karmique, vous n'aurez pas de désagrément.
On a tous un solde karmique.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y en a
Comment ?
Est-ce qu'il y en a un solde karmique ?
Mais attendez, faites comme si... Mais faites comme si... La résolution karmique dans le cinquième règne, c'est essentiellement éducation de maîtrise. Il ne faut pas voir ça comme une fatalité. Et simplement, il y a des points d'ajustement à faire. Ne vous ai-je pas dit que notre être intérieur gère notre karma et que par conséquent, si notre passif était lourd, eh bien notre être intérieur ne vous aurait pas donné accès à la connaissance de la vie. Vous n'êtes pas là par hasard. Mais il faut sortir des amidons, et notamment de toute la période d'influence du sixième rayon, hein, où les choses du Père sont impénétrables. Il faut assumer. Vous faites comme si... Vivez-le chaque jour et vous serez.
Carpe diem.
Au sens majuscule.
Au sens majuscule. Ouais.
Vous avez souci de vous épurer. Je vous ai dit, il y a deux façons. Soit de contraindre vos vies mineures, soit de servir de canal aux aspects de la pureté qui sont le vrai, le beau, le bien. Il y a deux façons de procéder. Soit du côté matière, soit du côté esprit. Bon. Quand vous êtes en processus, on va dire, régulier, eh bien, vous êtes en état d'épuration, et la constance à tenir cela vous amènera pureté et perfection. Et comme nous sommes dans la cinquième race, ce qui veut dire que nous sommes plus particulièrement liés au cinquième rayon, eh bien, quelle est la faculté que nous devons montrer en maîtrise? C'est la maîtrise du mental. Or, la maîtrise du mental, c'est à la fois un mental clair, mais c'est aussi un mental orienté pour qu'il reçoive fonctionnellement le plan christique, bouddhique. Notre âme, à un moment donné, doit s'estomper pour laisser place à la présence. Voilà, je vous laisse lire hein, les trois entre deux. Bon, voilà, on va marquer la pause et puis on continuera après.
S'il vous plaît, avant que je voudrais vous dire quelque chose. On est actuellement trois.